Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir des 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Willy Kalenga, il est journaliste, il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Bonjour monsieur Willy Kalenga.
Bonjour, bonjour Radio Capi.
Adrien Zawadi, président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Bonjour monsieur Adrien Zawadi.
Bonjour Guy Maté, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et ici au studio de Radio Okapi à Kinshasa, Stéphanie Waltorf, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Bonjour Madame Stéphanie Waltorf.
Bonjour Guy et bonjour à Radio Okapi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Vous nous écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Je rappelle que dans cette émission, nous avons la participation de M. Willy Kalenga, il est journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Adrien Zawadi, il est président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Et ici au studio de Radio Okapi Kinshasa, Mme Stéphanie Waltorf, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Au menu de cette émission, la SADC annonce l'envoi des troupes dans l'est de la RDC pour restaurer la paix dans cette partie du pays. La catastrophe naturelle est décalée et la contre-performance des régies financières dans les secteurs miniers. Mais nous allons commencer par un commentaire au sujet de l'extension du conflit Tekeaka à Kinshasa dans la commune urbano-rurale de Maluku. En effet, le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stassin Kizimou, a affirmé au cours d'une interview à Radio Okapi le mercredi 10 mai que les forces armées de la RDC assurent désormais la sécurité dans les plateaux de Bateke situés à 100 km à l'est de Kinshasa. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de la population, quoique l'ennemi qui s'est fait appeler Mobondo tente de s'isoler pour échapper au contrôle des forces de l'ordre. Le samedi 6 mai, des assaillants s'étaient infiltrés à Mongata et Menkao, tuant une dizaine de personnes, révèle le général Stassin Kizimou. 4 autres personnes ont également trouvé la mort dans cette localité cette semaine. Monsieur Willy Kalengai, ce conflit a atteint la ville de Kinshasa depuis plusieurs mois par la commune de Maluku, nous l'avons dit. Et déjà, plusieurs personnes ont trouvé la mort dans cette commune. Et les constats faits par certains observateurs est que cette situation semble ne pas préoccuper le gouvernement congolais. C'est votre constat aussi ou vous avez une autre perception sur cette situation?
Non, je ne pense pas que le gouvernement soit à ce point indifférent à un conflit qui peut devenir un conflit très très grand, d'ailleurs, qui a fait des pertes en vies humaines. Ce conflit, il faut simplement une bonne lecture, une bonne sociologie des populations à cet endroit-là. Je voudrais donner deux faits, trois faits qui peuvent expliquer un peu de quoi il s'agit. Nous avons le plateau de Bateke. On l'appelle plateau de Bateke. Ça veut dire que c'est un plateau où, à l'origine et de manière majoritaire, il y a une population de Bateke qui y vivait. Et la relation entre les Bateke et les autres populations qui ne sont pas de cette contrée était une relation de collaboration pour l'usage des terres. Parce que des gens venaient et utilisaient les terres sur le plateau ou ailleurs et ne devenaient pas propriétaires. Ça, c'est d'abord une relation ancestrale, une relation traditionnelle. Mais n'oubliez pas que depuis un certain temps, nous avons vu une course à l'achat des terres sur le plateau de Bateke. Vous avez des gens qui ont 15 000 hectares, 5 000 hectares, 3000 hectares, au point que les gens qui ont des moyens ont acheté une grande partie de ce plateau de Bateke, qui était un vivier pour les villageois, mais qui ne l'est plus, parce que dans les différentes concessions acquises par les grosses fortunes, que deviennent les villageois, que deviennent les villages. Plusieurs de ces villages ont dû s'exiler, quitter les lieux qui ont déjà été vendus par l'État. En quittant ces lieux, ces populations sont allées ailleurs, prendre d'autres places, ce qui a créé d'abord ces premiers conflits. La troisième chose, c'est que, à partir du moment où il n'y a pas une politique générale de contrôle des populations et surtout des installations des villages, parce qu'aujourd'hui les villages ont des conflits de terres, des conflits de chefs et des conflits coutumiers. Comme le gouvernement a inséré sa propre autorité dans le choix des chefs coutumiers, le conflit est devenu explosif. Aujourd'hui, nous avons donc des gens qui sont affrontés les uns envers les autres, contre les autres, pardon, et il y a donc un cycle de violence qui est en réalité un cycle de vengeance. Ceux qui ont perdu leurs frères s'arment pour contre les autres, et ainsi on a cristallisé ça autour des populations qui sont sur le plateau de Bateke. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une négligence, mais je l'avais dit il y a 3 mois à votre propre antenne, je l'avais dit que ce conflit va s'arrêter le jour où on va restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Et je suppose que le déploiement des forces militaires, le déploiement des compagnies armées va certainement constituer une accalmie à cette violence.
Merci Adrien Zawadi. Quelle analyse vous faites de ces conflits qui s'enlisent ces temps maintenant à la ville de Kinshasa?
Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord l'analyse de Willy, mais je prends son analyse en partie parce que, en effet, ce genre de questions remet sur la table la question de performance de nos services de sécurité et de renseignement. Nous avons l'impression que très souvent, nos services courent derrière les événements. C'est vrai que, selon que Willy vient de le dire, le gouvernement se déploie maintenant pour aller calmer la question. Mais calmer la question ne signifie pas qu'on a résolu le problème. Et il faut ici arriver à identifier qui sont les tireurs de ficelles. Parce que, en ce que je sache, les Congolais ne sont pas des sanguinaires, ne peuvent pas s'entretirer jusqu'à ce niveau. Donc il doit y avoir une certaine manipulation, il faut qu'on arrive à savoir, et c'est là on devait le prévenir à travers nos services de renseignement, qui manipule ce genre de conflit. Parce que nous, ne l'oubliez pas que le conflit que nous avons ici du côté de l'Est, c'est en grande partie aussi cette question non seulement de l'identité, mais aussi c'est la question du contrôle des terres et des ressources, mais aussi la question du pouvoir. Et ça ne sera pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer ici à l'Est, ça atteint les Bateke, mais ça va se répéter partout. Et peut-être ça va être plus accentué ici parce que la course effrénée vers les terres ici, ça risque d'être une question qui va nous préoccuper. Donc, il faut savoir à qui profite ce genre de conflit. Ça a commencé à l'Est, ça prend maintenant aujourd'hui l'Est. Mais comme j'ai dit, les Congolais ne sont pas des sanguinaires, ne pouvons pas nous entretuer à cause des terres que nous avons exploitées. Donc, il doit y avoir des manipulateurs qui cherchent des positionnements. Et pour ces terres-là, ceux qui les ont achetées, ici chez nous par exemple, c'est souvent des étrangers. Et des étrangers qui, après, ils veulent s'installer, il faut chasser tous les autochtones. Et pour chasser les autochtones, il faut tuer pour créer un peu la psychose. Et voilà. Donc, je crois que la responsabilité de l'État ne se limite pas seulement au niveau d'aller calmer les jeux, mais de prévenir ce genre de questions parce que la RDC tout entière, c'est une terre qui est enviée par tout le monde. Et si on ne tire pas attention, si nos services ne sont pas performants et préventifs, on va assister à ce genre de questions très souvent.
Merci Madame Stéphanie Wachtorz. Pendant que l'on s'inquiète de la manière dont s'étend ces conflits Tekeyaka, on parle depuis quelques semaines d'un nouveau conflit, un autre conflit interethnique entre les Lengo et les Mbole dans la province de la Tchopo. Et là aussi, il y a déjà des victimes. Un conflit similaire, n'est-ce pas, celui entre les Tekeyaka, parce que la pomme de discorde, c'est aussi des problèmes fonciers. Il y a des termes qui ont été utilisés par les intervenants ici. Willy Kalinga a parlé de la restauration de l'autorité de l'État. Et Adrien Ozawadi a parlé de la contre-performance des services de sécurité. Qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Bon, je ne connais pas tous les détails de ce qui se passe dans la Tchopo, mais je crois que ce que les deux autres intervenants ont bien évoqué, c'est que Il y a aussi un travail à faire bien au-delà de le déploiement des services de sécurité. C'est vrai qu'il est important d'avoir l'armée là-bas pour sécuriser les gens, mais ça ne règle pas le problème. Je crois que quand il y a des conflits fonciers, il y a d'autres instances gouvernementales qui devraient jouer leur rôle, qui doivent utiliser de leur autorité. Et c'est clair que quand il s'agit des terres et quand il s'agit des biens de terre, c'est les ressources qui font vivre les gens. Donc ça va droit à la capacité des gens de se nourrir. Donc c'est tout à fait normal que s'il n'y a pas une résolution au niveau des autorités, que bon, ça peut déraper, que ça peut causer des violences. Et si j'ai bien compris, surtout ici, près de Kinshasa, dans le conflit ici, il y a aussi une ingérence de la part de l'État dans les affaires coutumières. Donc il y a énormément de couches à gérer dans ce conflit. Et je crois que, comme dans d'autres conflits dans le pays qu'on a déjà vu, il ne suffit pas juste d'envoyer l'armée. Souvent, quand l'armée est là, ça fait aussi peur aux acteurs. Il faut réellement régler et écouter aussi ceux qui réclament ce qu'ils réclament.
Alors, le fait que les conflits atteignent la ville de Kinshasa, Madame Stéphanie, siège des institutions politiques, et où l'une des ethnies, n'est-ce pas, est originaire de cette ville, qu'est-ce qu'on peut craindre?
Bon, Kinshasa, c'est une très très grande ville avec beaucoup de monde. C'est clair que s'il y a une extension de ce conflit à Kinshasa, que ça peut causer des grands dégâts. Si je comprends bien, on n'est pas encore à ce point. Mais je crois que ce qui est important dans ça, c'est que souvent on dit que l'État est absent des zones loin des grandes villes du pays. Mais avec ce conflit, on voit que même près de la capitale congolaise, on a ce genre de choses qui ne sont pas réglées. Donc l'autorité de l'État est même absente près de la ville de Kinshasa, et ça aussi c'est quelque chose qui est très grave.
Merci, on prend une petite pause avec Suite Fanta Diallo d'Alpha Blondy et on revient tout de suite après. C'était Suite Fanta Diallo de l'artiste musicien ivoirien Alpha Blondy de son vrai nom, Seydou Kone. Alpha Blondy n'est plus à présenter. À travers cette chanson, Suite Fanta Diallo, il se demande où est passé Fanta Diallo et dans les contextes de la RDC avec ce phénomène des conflits interethniques. Donc on peut se demander où est passé l'amour du prochain dans ces pays où il suffit d'un petit malentendu autour des questions foncières pour que les gens s'entretuent. On revient à l'actualité de cette semaine. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle a décidé d'envoyer des forces pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Décision prise lundi 8 mai à l'issue du sommet spécial des pays membres de cette organisation sous-régionale à Windhoek en Namibie. La force de la SADC va ainsi s'ajouter à celle de l'EAC qui contrôle quelques zones auparavant occupées par les 1-23. Mais qui n'a pas réussi à mettre fin à l'insurrection au Nord Kivu. Cependant, la date précise sur le déploiement de cette force régionale et le nombre de contingents n'ont pas été précisés. Madame Stéphanie Woltz, vous êtes chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales. L'annonce de la SADC et de l'envoi des troupes dans l'est de la RDC Quand savons-nous quel pourrait être l'impact politique et militaire, l'importance des relations avec la communauté est-africaine? Vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Oui, merci Guy. Oui, évidemment, ça change la donne un tout petit peu. Je crois que d'abord, il faut dire que c'est une victoire pour le président Tshisekedi d'avoir la SADC qui déclare qu'elle va envoyer des troupes. Comme vous dites, on n'est pas encore sûr du nombre, on n'est pas non plus sûr de la date ni du mandat, la durée et les objectifs. Mais évidemment, le président Tshisekedi souhaite que ce soit un mandat offensif. C'est la chose qu'il critique le plus avec la force est-africaine, c'est qu'elle n'a pas un mandat offensif. Il faut dire aussi tout au début que la SADC a déjà des troupes ici avec le contingent sud-africain, malawien et tanzanien qui forment la brigade d'intervention qui fait partie de la MONUSCO. Ils sont là depuis 2013 justement. Ils sont venus, ils ont été déployés par la SADC en réaction à la dernière crise M23. Donc voilà. Je crois que évidemment il y aura beaucoup d'acteurs sur terrain. On a la MONUSCO, on a la brigade d'intervention, on a la force est-africaine. On ne sait pas combien de temps ils vont rester. Le président a dit que s'il n'est pas content d'eux, ils pourraient déjà partir à la fin de leur prochain mandat au mois de juin. Il y aurait la SADC aussi. Donc ça nécessite effectivement une très bonne coordination entre toutes ces forces. Et donc, ce qui est prévu, c'est un sommet entre la communauté est-africaine, la CIRGL, la SADC et la ECAS pour essayer de coordonner tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pour Tshisekedi une victoire, je crois, qui lui permet d'avoir un contrepoids contre le Rwanda dans ses négociations aussi avec le président Kagame. Je crains un tout petit peu pour les relations, bien sûr, avec la communauté est-africaine qui, après tout, a déployé des moyens, des vies de leurs États membres. Le Kenya, qui a beaucoup poussé pour ça, et on sait très bien qu'il y a de très bonnes relations entre Félix Tshisekedi et le président Uhuru Kenyatta, qui ont surtout poussé pour l'adhésion de la RDC dans la EAC. Et aujourd'hui, il se tourne entièrement, il tourne un peu le dos à la communauté est-africaine pour renouer avec les anciens amis de la SADC qui se sentaient quand même un peu délaissés depuis son arrivée au pouvoir, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vraiment interagi avec cette organisation-là. Mais bon, c'est pas la seule solution. Il faut dire que nous savons qu'il faut discuter, il faut des négociations. On ne peut pas être totalement dans une logique militaire pour résoudre le problème avec et la M23 et la région. Il faut aussi des pourparlers.
Oui, vous l'avez dit, on aura plusieurs forces, n'est-ce pas, dans la même zone. Et à votre avis, quelles sont les forces et les faiblesses d'une telle approche? Le fait d'appeler plusieurs forces dans la même région pour s'occuper d'un problème sécuritaire. C'est quoi les forces et les faiblesses d'une telle approche?
Bon, il faut déjà s'imaginer combien de commandants nous allons avoir. Nous allons avoir le commandant de la FRDC, le commandant de la MONUSCO, le commandant de la brigade. C'est déjà les forces que nous avons sur terrain. En plus, on a maintenant la force régionale de la communauté est-africaine, encore un commandement, et puis de la SADC. C'est 5 groupes différents militairement qui ne travaillent pas forcément ensemble. Donc il y a une coordination à faire. Il y a un respect pour les droits de l'homme, il y a un respect pour les vies civiles auxquelles il faut songer. Il ne faut pas que ces armées-là s'affrontent. Ça peut arriver si on a autant de contingents qui sont sur terrain. Il faut qu'il y ait des objectifs, il faut coordonner les opérations. Bon, la cible, elle est la même hein, pour tous ces groupes. C'est toujours le M23, mais il faut coordonner tout ça. Sinon, ça sera vraiment, on en risque d'avoir une grande confusion et des malentendus. C'est aussi ça. On ne peut pas s'imaginer que la SADC, par hasard, tire sur un soldat de la communauté est-africaine. C'est totalement inacceptable. Donc, c'est vraiment quelque chose où on doit s'imaginer autant d'armées dans une petite zone, parce que quand même, il s'agit plus ou moins du Nord Kivu. Il faut vraiment avoir une coordination et une bonne compréhension du mandat d'un chacun.
Merci, Monsieur Willy Kalengai. Vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Et comment vous comprenez cette déclaration du président angolais João Lourenço, faite au lendemain, n'est-ce pas, de l'annonce de la SADC? Il a affirmé ceci: nous savons qu'à ces jours, le M23 respecte le cessez-le-feu. Malheureusement, la prochaine étape ne s'est pas encore concrétisée. Cette étape ne dépend pas uniquement du M23, elle dépend aussi du pays, la RDC. C'est le cantonnement des forces du M23. Nous avons mis en place un cessez-le-feu. À présent, nous devons cantonner ces forces et lancer le processus de réintégration de ces citoyens congolais dans la société congolaise. Comment vous réagissez à ces propos, M. Willy Kalengai?
Évidemment, quand vous suivez ces propos, et vous tombez justement dans cette hypocrisie généralisée, on ne dit pas exactement ce que l'on veut, et quand on le dit à demi-mots. On peut quand même constater qu'il y a une grande asymétrie entre les missions que les forces se donnent, notamment, même que ce soit l'EAC, aujourd'hui SADC, et les comportements sur le terrain. Qu'est-ce que moi j'ai compris? Et ça n'engage que moi. J'ai compris que, évidemment, le M23 ne peut plus balkaniser le pays en prenant des espaces qu'il va contrôler, même s'il le contrôle. Mais j'ai compris qu'au niveau de l'EAC, la philosophie, l'idéologie générale pour solutionner le problème de la sécurité à l'est du pays, en fait, pour l'EAC, il s'agirait d'ouvrir les frontières du Congo dans cet espace-là, qu'on résoudrait les problèmes du Rwanda, du Burundi, du Kenya et du Congo, voire même de l'Érythrée, en créant une ouverture de frontières à tout cet espace-là. Ça veut dire qu'on va résorber toutes les questions et de la souveraineté. Ce qui n'est pas dit, mais qui s'est fait sur le terrain. Parce que sur le terrain, on a constaté quoi? On a constaté que les forces de l'EAC, tout en ayant récupéré certains lieux abandonnés par le M23, ont interdit aux FARDC d'accéder à ces zones. Dans l'accord de Luanda, il avait été décidé que les forces de l'EAC entrent par Bunagana, de manière à prendre en étau les M23. Mais ça ne s'est pas fait de cette manière-là, ça a changé. Je pense que les autorités congolaises doivent saisir cela et le plus vite possible. Il n'y aura pas une force qui aura un mandat offensif à l'Est. Tous vont venir parce que le Congo, c'est quand même la vache à lait, c'est le Congo qui a tout donné. Tous vont venir pour pousser le Congo progressivement à ouvrir ses frontières à cet espace, de manière à ce que les questions des populations, la situation des biens, l'établissement des populations à l'intérieur de cet espace-là soit libre. On ne le dit pas assez, mais on fait de manière à ce qu'on y arrive. Alors, quand je reviens à la question des Angolais, évidemment, les Angolais, en tant que membres de la SADC, ils sont aussi quand même parrains de l'accord de Luanda. Il fallait d'abord, pour que les M23 soient cantonnés, il fallait d'abord qu'ils puissent déposer les armes. Ils n'ont pas déposé les armes. Comment on va les cantonner? Et même le processus même de démobilisation, il la chope à un seul et unique point. Pour le gouvernement congolais, on démobilise et on remet à la vie civile. Pour les M23, on démobilise et on réintègre dans l'armée, soit-elle FARDC ou une autre armée. Nous sommes bel et bien dans une posture où les vraies motivations ne sont pas ce qui s'est dit en public. Et je crois que notre gouvernement, le gouvernement congolais, se doit d'utiliser les armes de l'intelligence, de la stratégie et de l'anticipation pour saisir que, pour une certaine communauté internationale, ils veulent résoudre une pierre trois coups, amener la paix à l'est du pays, régler les problèmes du Rwanda par rapport à son espace, régler les problèmes de circulation des populations dans cet espace-là. Et l'EAC aurait été choisi comme l'espace pilote pour que les populations se brassent sans que les frontières entre ces États ici ne soient un frein pour les souverainetés éventuelles. Voilà un peu mon analyse. Moi, je crois qu'aucun ne va venir pour faire la guerre. Ils vont simplement pousser les FARDC à ne pas monter en puissance, de manière à ce que la faiblesse de FARDC devra constituer le triomphe de cette nouvelle vision, cette nouvelle réalité politique, en disant, oui, le Congo, ouvrez vos frontières, laissez ces populations s'installer. Je l'ai dit c'est à mon corps défendant, mais je me dois de le dire parce que je le perçois dans les propos des uns et des autres. Voilà un peu ce que je peux dire.
Merci Adrien Zawadi, président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Une question que beaucoup de personnes se posent. On se rappelle que lorsque l'EAC avait décidé de déployer ses forces dans l'Est, c'était officiellement avec un mandat offensif, mais une fois sur place, le langage a changé. Et qu'est-ce qui dit que la SADC ne va pas procéder de la même façon? Vous avez suivi Willy Kalengai qui lui est convaincu qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, une force dans l'Est du pays qui aura des mandats offensifs.
Merci beaucoup. Je me rallie un peu à l'idée de Willy et même une partie de Madame Virginie.
Mais Stéphanie, Madame Stéphanie.
Stéphanie, excusez-moi. Mais je voudrais dire ici que nous, la société civile, en tout cas des provinces de l'Est, nous avions au début, lorsqu'il fallait faire appel à cette force de l'EAC, nous nous étions érigés pour dire non. Rappelez-vous que lorsqu'il s'est agi de la mutualisation des forces, on a commencé avec l'Ouganda, nous sommes montés au créneau pour dire que l'Ouganda est un de ces pays qui nous agresse. Aujourd'hui, la RDC ne peut pas mutualiser les forces et croire que l'Ouganda vient nous aider. C'est donner un chèque en blanc à l'Ouganda qui manipule les groupes armés du côté de l'Ituri et de Bunia pour tuer nos confrères. Et donc l'Ouganda jouerait les pompiers pyromanes. Et nous sommes allés jusqu'à Kinshasa, en tout cas les Sud Kivu, les Maniema, les Tanganyika, l'Ituri et le Nord Kivu. Nous sommes allés à Kinshasa, nous avons rencontré le chef de l'État pour lui dire: nous ne sommes pas d'accord avec l'avenue des forces de l'EAC. Pourquoi? Parce que c'est parmi ces pays de l'EAC qu'il y a les pays qui nous agressent. Et aujourd'hui, ces pays ne peuvent pas dire qu'ils viennent nous aider à terminer la paix. Encore que ces pays-là sont des pays qui bénéficient directement ou indirectement les dividendes de la guerre ici. Donc, ils ne sont pas prêts à terminer la guerre à l'Est. Et donc, les appeler ici, c'est difficile. Rappelez-vous comment le Rwanda voulait envoyer sa police ici pour nous sécuriser. C'était une bêtise et la population a refusé. Et donc nous, on avait dit au chef de l'État que s'il fallait vraiment, comme nos forces armées congolaises n'étaient pas à la hauteur de sécuriser les frontières, que s'il fallait vraiment inviter une autre force, nous avions conseillé de rééditer l'expérience de Moïse Laurent-Désiré Kabila. Pourquoi? Parce que, et donc l'appel à la force de la SADC, parce que la force de la SADC connaît un peu les modus operandi du Rwanda et de l'Ouganda pour le simple fait qu'ils se sont battus ensemble. Mais c'était déjà trop tard parce qu'on avait invité la force de l'EAC. Mais nous, la population de l'Est et je crois de la RDC, nous nous étions dit que nous n'étions pas prêts à accompagner cette force-là parce que ce sont ces pays qui nous agressent directement et indirectement. Bon, aujourd'hui, on a eu tendance à se frotter la main en disant, finalement, l'EAC, le gouvernement nous a compris, on appelle la force de la SADC. Mais comme dit Willy, il y a de l'hypocrisie dans cette histoire. Alors, il y a aussi ce que Stéphanie a dit, beaucoup d'acteurs, il va se poser la question de la coordination. Et nous avons peur que, effectivement, que ces forces-là puissent, à cause de cette hypocrisie-là, que ces forces-là puissent faire la même chose, dit pareil au même. Et il va falloir que le gouvernement congolais, la diplomatie congolaise, ne reste pas en somnolence, qu'il reste éveillé parce que il va se poser aussi la question du respect des accords signés avec ces pays-là, mais ces organisations, que ce soit la SADC, mais que ce soit aussi l'EAC. Mais si on va plus loin, excusez-moi, moi je regarde ici en face, je vois plus loin, je dis, mais la force de la SADC, il risque d'y avoir un conflit, une guerre idéologique. Les pays qui composent la SADC sont beaucoup plus des pays alliés aux BRIC. Et les pays qui sont dans l'EAC sont des pays qui sont alliés beaucoup plus à l'Union européenne. Et on sait qui soutient les BRIC et on sait qui soutient les pays européens. Et donc, il y a tout ça et ça risque de faire un coup de feu sur le terrain. Mais c'est pour cela que ces pays ne devraient pas dormir sur les lauriers en disant on a appelé la SADC ici, va nous aider, parce qu'au sein des pays de SADC, c'est de l'intérêt qui va guider. Donc, le respect des accords entre ces organisations, que ce soit la SADC, que ce soit l'EAC, va poser encore beaucoup de mal à notre pays. Et donc, il faut rester éveillé à construire notre armée. Mais nous, la population, je peux déjà vous le dire, et c'est sous le contrôle de mes collègues présidents de la société civile de ce côté ici, nous allons beaucoup plus soutenir les forces de la SADC que les forces de l'EAC. Parce que nous avions refusé la venue de cette force, mais nous soutenions à l'époque et même aujourd'hui, nous soutenons l'avenir de la force de la SADC.
Et s'il arrivait, Adrien Zawa dit que une fois sur le terrain, les forces de la SADC se comportent comme l'EAC, c'est-à-dire que ces forces n'utilisent pas la coercition pour pousser les M23 à respecter ses engagements, mais se comportent comme l'EAC qui a dit nous sommes là pour aider les pays à trouver un règlement politique à ces problèmes.
C'est pour cela que nous alertons notre pays à ne pas dormir sur les lauriers en disant que c'est fini. Avoir invité ces forces-là, c'est fini. Il faut que notre diplomatie, je l'ai dit, reste éveillée et proactive. Il ne faut pas qu'en les appelant, on puisse être naïf en disant « bon, c'est fini, c'est faux ». Non, il faut toujours continuer à travailler sur notre armée.
Merci.
Et Madame Stéphanie a soulevé la question de coordination et c'est le plus grand défi de toutes ces forces-là qui seront sur notre territoire.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. On va écouter Dadi, cette nouveauté de la franco-malienne Aya Nakamura, et on revient après.
Pas compliqué, mais va dire là c'est mélangé. Faut pas te fâcher parce que je te dis la vérité. Tu m'as fait du mal, il fallait juste rattraper. Mais le temps était coupé. Là y'a un bémol. Entre nous deux y'a un bémol. Tu peux pas me mélanger. À tes groupes ils me mélangent. Il me dit comment tu parles bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy, m'a dit aïe aïe, tu m'écoutes. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas. Pourtant c'est nécessaire. Ouais, pour deux c'est nécessaire.
Bébé veut se gamer, bébé veut tout mélanger, mes sentiments sont dérangés. Elle m'a dit temps écoulé, j'ai des litres à faire écouler. Je sais pas si elle me prend pour un croyant, j'ai tout donné, je me sens couillé. En vrai toi t'aimais que mon papier. Oublie vite les bails, dis-moi si je dois te les rappeler. Reviens on arrête, c'est bon, ma fierté m'a appelé. Non non, toi tu m'as bloqué sur toutes les applis. Yes.
Comment tu parles bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy, m'a dit aïe aïe, tu m'écoutes. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas. Comment tu parles bébé. Il faut se calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy, aïe aïe, tu m'écoutes. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la persistance et l'extension du conflit Tekeyaka à la ville de Kinshasa. Nous avons également analysé l'annonce par la SADC de l'envoi des troupes dans l'est de la RDC. Participe à cette émission, M. Willy Kalenga, il est journaliste et le directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Adrien Zawadi, il est président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Et ici au studio de Radio Kapi Kinshasa, Mme Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. La catastrophe naturelle de Calais, la situation humanitaire, sociale et psychologique des habitants de Calais au sud Kivu reste toujours très préoccupante une semaine après les inondations qui ont frappé plusieurs villages dans ces territoires. Chaque jour qui passe, de nouveaux corps sans vie sont découverts dans les décombres, a constaté mardi 9 mai les reporters de Radio Capi qui étaient sur place. Le bilan de la catastrophe s'est alourdi. Il est passé à ces jours de 412 à plus de 438 morts, avec 26 corps retrouvés le mercredi 10 mai dernier. Adrien Zawadi, vous avez souhaité parler de ces sujets. On peut savoir pourquoi?
Oui, nous avons souhaité parler de ces sujets Guy Maté parce que d'abord, c'était une catastrophe. Peut-être qu'on aurait dû minimiser parce que ce n'est pas la première fois que le Sud Kivu et particulièrement le Calais a subi cette histoire, cette catastrophe-là. Rappelez-vous qu'en 2014, il y a eu la même chose, 2016, il y a eu la même chose, 2018, et aujourd'hui en 2024. Mais on constate qu'effectivement, on n'a pas tiré les leçons, et aujourd'hui, nous venons de perdre beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, comme tu viens de le dire. On continue à découvrir des cadavres, et cette question soulève justement d'autres, par exemple, la gouvernance de notre environnement. Nous avons un ministère d'environnement, les collines de Calais, par-ci par-là, même dans tous les pays presque, mais parlons de Calais, sont dénudées. On a fait une déforestation sauvage de ces collines et aujourd'hui, l'environnement est en train de se venger sur les humains, comme nous on s'est vengé. Et nous avons aussi un problème d'aménagement des territoires. Depuis toute cette situation, si nous avions été prévoyants, je crois que le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de l'environnement, au lieu de s'occuper des questions des taxes et de toute autre chose, on aurait dû déjà prévenir ce genre de catastrophes, délocaliser les gens, par exemple, parce qu'on sait que ce sont des situations qui sont arrivées par le temps et qui pourraient encore revenir. On aurait dû avoir un programme conséquent de reboisement de toutes ces collines. On aurait dû avoir un programme d'assistance active, en tout cas, de quelques victimes qu'on pourrait avoir, on ne pleurerait pas aujourd'hui des milliers de personnes. Je voudrais porter à votre connaissance qu'aujourd'hui, tout calcul fait, c'est beaucoup de personnes que, bon, à peu près plus de 1000 maisons. Or, nous connaissons la taille de chaque famille aujourd'hui, c'est entre 8 à 8 personnes, moyennement. Si vous faites le calcul, on sera à plus de 12 000 personnes perdues comme ça. Et donc, c'est, la catastrophe-là, elle est très dangereuse, et même maintenant, puisque cette zone-là, c'est une zone endémique du choléra, les risques de résurgence du choléra sont grands et donc ça pose quand même un problème de gouvernance au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, au niveau du ministère de l'environnement et même les réactions qui ont suivi après au niveau du ministère des affaires sociales et humanitaires.
Oui, et donc, justement, Adrien Zawadi, vous qui êtes dans la région, comment vous jugez la réponse qui, jusque-là, a été apportée aux différents besoins humanitaires qui se présentent?
Oui, nous ne pouvons pas cracher là-dessus, mais je crois que c'est encore insuffisant et n'est pas proportionnel aux dégâts connus. On ne peut pas cracher là-dessus, mais je dis bien que c'est insuffisant par rapport aux dégâts connus. Et il y a un aspect de cette assistance que nous n'avons pas vu. Nous aurions souhaité, par exemple, que dans cette assistance, il y ait une inhumation digne de ce qui s'est arrivé. Vous rappelez, vous savez, je dis matin, nous sommes à l'Est, on tue les gens dans les bénis, on tue les gens ici et là, mais on n'a jamais vu l'enterrement indigne que nous avons connu ici au Sud Kivu. Parce que les motifs qu'on avance ici, ce n'est pas des motifs qui nous convainquent. Donc, ce qui a été fait, c'est juste que là, c'est bon, mais c'est insuffisant. Et il faut du sérieux et de la prévention dans ce qui va être suivi. Et c'est ici l'occasion. Il faut élever l'alerte pour que on puisse pas encore, s'il y a résurgence de maladies hydriques, qu'on ne puisse pas encore pleurer plus de morts qu'on a eu déjà.
Merci.
Donc il faut vraiment que tout le monde puisse se mobiliser pour qu'on puisse prévenir les conséquences de cette catastrophe et de continuer à gérer cela de manière responsable.
Merci, merci Madame Stéphanie Walters. Ce qui transparaît à travers cette catastrophe, c'est que le pays, donc la RDC, n'est pas encore préparé, n'est-ce pas, à faire face à ce type de catastrophe. On a vu aussi ce qui s'était passé à Goma lors de l'éruption volcanique du 22 mai 2021. Et pourquoi, à votre avis, la RDC n'arrive toujours pas à combler ses déficits?
Bon, d'abord, je voudrais exprimer mes condoléances à toute la population touchée par cette catastrophe. Je crois que malheureusement, nous sommes dans une situation où ce genre de crise, ce genre de catastrophe, le gouvernement, les administrations, les provinces n'ont pas les moyens de s'y adresser. C'est tout simple. Les moyens ne sont pas là. Même quand il n'y a pas de catastrophe, les moyens ne sont pas là. Et c'est ça la vérité aussi. Les hôpitaux n'ont pas les moyens, les écoles n'ont pas les moyens. Donc il y a un problème, un vrai problème de livrance de services sociaux au pays. C'est dû aussi, bien sûr, à des contraintes budgétaires assez importantes. Mais justement, dans les situations de catastrophe, les situations d'urgence, ça se voit encore plus. Et la population de Calais aujourd'hui est en train de voir qu'il n'y a pas les engins pour essayer de trouver les survivants, il n'y a pas les engins pour essayer de dégager les corps, pour en fait enterrer les gens proprement. Tout ça, c'est en dessous de la catastrophe qu'ils vivent, c'est l'horreur complète. Et même chose avec le volcan. Donc quand il y a des catastrophes comme ça, l'État est totalement débordé. C'est la même chose avec le nombre de déplacés qu'on a. Ça, c'est pas la faute de l'État, bien sûr, mais qui s'en occupe, c'est les humanitaires. Et donc, non, malheureusement, c'est encore la situation dans laquelle le pays se trouve, qu'il n'est pas en mesure de gérer ce genre de choses.
Merci, Willy Kalenga. Il y a un territoire avec une population estimée à 15 000 habitants. Vous avez plus de 400 morts, plus de 5 000 portés disparus et plus de 3 000 familles sans abri. C'est toute la population donc qui a été décimée. À votre avis, quelles sont les leçons à tirer d'une telle situation?
En tout cas, maintenant, il est difficile de tirer des leçons parce que nous sommes encore dans l'émotion de l'événement. Aujourd'hui, je pense que le réflexe le plus important, ce serait la solidarité. J'en appelle donc à tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, il faut des actes de solidarité, notamment en faisant un effort pour des inhumations très rapides parce qu'il faut quand même éviter qu'il y ait des propagations de maladies. Mais ensuite et surtout parce que un pays, un territoire, ça se gère selon des plans préétablis. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'oublier les lois et les règlements de l'aménagement du territoire. Sur ce côté-là, l'État doit cesser d'être complaisant. Les populations, certes, c'est la base, c'est avec les populations que l'on a des voix, mais il faut donner à cette population les moyens pour se défendre contre ses propres erreurs. Aujourd'hui, il y a eu trois facteurs majeurs dans cette catastrophe. Il y a d'abord eu le réchauffement climatique. N'oubliez pas que les rivières là-bas ont augmenté de volume et il y a eu inondation. Mais il y a aussi le fait que les constructions sont faites sur les versants de toutes ces montées, ces collines, et que quand il y a éboulement, quand il y a on ne peut pas se protéger contre ça. Nous avons aujourd'hui une loi, la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, qui doit être prioritaire. Elle doit être prioritaire, elle ne doit pas être une loi périphérique, une loi qu'on a votée juste pour le beau jeu de ceux qui l'ont votée. C'est pour sauver des vies, pour sauver des populations, que cette loi doit être aménagée. Donc on ne peut pas ériger un village, construire une maison dans un endroit à risque. Et cette population, je crois qu'il y a 15 ans qu'il a déjà été prévenu que ça pouvait arriver. Malheureusement, c'est arrivé. La deuxième chose, c'est qu'il existe un plan de contingence. Je crois qu'à l'époque, si je me rappelle bien, à l'époque de le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait effectivement élaboré un plan de contingence, pas seulement pour le Nord Kivu, mais ça prenait un peu la sous-région, la région du Kivu, avec des sites dangereux. On avait déjà repéré les lieux où vivre pouvait devenir dangereux. Ce plan de contingence n'a pas été financé, et Stéphanie vient de le dire, vous n'avez pas de moyens quand tout va bien, eh bien vous n'aimerez pas quand ça va mal. Voilà un peu les leçons. Que nous ne devons pas simplement évoluer dans le contexte de la bonne gouvernance sans tenir compte de que nous vivons dans un monde aujourd'hui où les catastrophes seront récurrentes à cause du réchauffement climatique.
Merci, on les écoute, ces collectifs de musiciens américains. Ils avaient chanté en 1985 « We are the world ». C'était We Are the World, cette chanson caritative, un classique composé en 1985 par Michael Jackson et Lionel Richie, interprété par un collectif de musiciens américains. À travers cette chanson, ils avaient manifesté leur solidarité avec l'Éthiopie où sévissait une famine qui avait fait des milliers de morts. Je rappelle que nous avons dans cette émission Willy Kalenga, il est journaliste, il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Adrien Zawadi, président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu, et ici au studio de Radio Okapi à Kinshasa, Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. La contre-performance des régies financières dans le secteur minier. Les régies financières ne seront pas mobilisées 15 milliards de dollars américains, montant prévu pour le budget 2023, telle est la conclusion du Centre de recherche en finances publiques et le développement local, CREFDEL en sigle. Cette organisation recommande au gouvernement de déposer au Parlement un collectif budgétaire. Selon elle, il faut réduire le budget 2023 à 10 milliards de dollars américains au lieu de 15 milliards. Les prix des matières premières sont en baisse et les régies financières collectent moins de 30% des recettes prévues, conclut le CREFDEL. Willy Kalengai, qu'est-ce qui vous a motivé en souhaitant nous parler de ce sujet, la contre-performance des régies financières dans les secteurs miniers en RDC?
Nous avons été heureux dans ce pays de vivre la montée en puissance de notre budget national. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, nous avions un budget de 100 millions de dollars, et c'est 100 millions de dollars, et quand il a augmenté, il est arrivé jusqu'à 300 millions. C'était du passé. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'en l'espace de 2 ans, le pays est quand même allé de 4 milliards jusqu'à 10 milliards, et aujourd'hui, on parle de 15 milliards. C'est donc une joie pour l'ensemble des observateurs, parce qu'un État qui a des moyens est un État qui peut faire beaucoup. Alors l'année passée, il nous a été quand même dit que le budget qui a été voté pour 2023 serait de 15 milliards à peu près, donc 14 parce que le gouvernement avait déposé 14, mais le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, est arrivé jusqu'au tour de 16 milliards. Mais il faut quand même constater que des faits sont intervenus qui peuvent expliquer ces contre-performances. Je ne parle pas de contre-performances des régies financières, comme s'ils n'avaient pas les moyens de récolter, mais je parle de l'assiette même fiscale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est peut-être pour ça que je voulais en parler un tout petit peu. Il y a quelques faits objectifs qui peuvent expliquer la diminution de ces recouvrements. D'abord, parlons de ce budget qui dépend à 80% de la manne financière qui vient des mines. Cette année, nous avons eu quand même un des grands contributeurs, notamment le Tenke Fungurume, qui a été suspendu à l'exportation pendant 9 mois. Donc, quand une entreprise qui donne plus de 20, 30, 40% de ce que vous avez comme attente n'exporte pas, parce qu'il n'exporte pas, il n'y a donc pas de revenus, il n'y a donc pas de bénéfices. C'est l'impôt sur les bénéfices qui donne des moyens à l'État. Donc, Tenke Fungurume, n'ayant pas exporté pendant 9 mois, il n'y a donc pas moyen que l'État vienne prendre des ressources à Tenke Fungurume. Il y a un deuxième contributeur, c'était la mine Moumi. Moumi a été fermée jusque maintenant, parce que Moumi a besoin de renouveler ses papiers, ses autorisations, et surtout d'adapter sa nouvelle usine à la roche mère qu'elle est en train de vouloir découvrir. Donc Moumi n'a pas non plus donné. Vous avez aussi Sicomine, qui était dans la tourmente de la révision, parce que son contrat, le contrat qu'il y a avec l'État congolais, avait été un peu remis en question. Vous vous rappelez, l'IGF est parti. Il y a donc des négociations avec Sicomine. Donc, les grands contributeurs avaient été un peu paralysés, ce qui peut expliquer aussi cette diminution des recettes. Mais à la charge des régies financières, l'on peut noter aussi le fait que on ne voit pas de modélisation de ces régies financières. Parce que s'il y avait une modélisation des régies, elles pouvaient elles-mêmes anticiper sur la perte de la diminution des recettes. Parce que les régies travaillent en comparaison, en disant, bon, à telle période de l'année passée, nous avons eu tel montant, donc l'année ici, nous aurons tel montant. Comme il n'y a pas de modélisation, au moins à ma connaissance, s'il y en a, il faudra qu'on me le dise, comme il n'y a pas de modélisation des régies financières, il est donc normal que l'on arrive à des surprises désagréables, comme celle notamment qui nous est suggérée de la diminution, effectivement, d'un collectif budgétaire pour diminuer la hauteur du budget. Mais je reste encore optimiste, hein, parce que le mois d'avril vient à peine de s'achever, et c'est le mois des grandes déclarations. Nous saurons peut-être d'ici la fin du mois de mai quelles ont été les dernières déclarations. Peut-être que des nouveaux contributeurs, de nouvelles activités, et peut-être que l'assiette s'est élargie en dehors du cercle financier des mines. Voilà un peu ce qui peut expliquer aujourd'hui, en gros, la diminution éventuelle du budget de l'État.
Et à votre avis, quelles pourraient être les conséquences politiques et économiques de cette contre-performance des régies financières dans le secteur des mines?
Non, là, ça signifie que, bon, ce qui est d'abord demandé, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence, parce que le secteur minier, c'est un secteur qui ne demande pas beaucoup de bouleversements. Il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu beaucoup de contradictions. Regardez par exemple le conflit entre la Gécamine et Tenke Fungurume, qui a poussé à la suspension des exportations, et un contributeur de cette taille, on ne le suspend pas. Mais il y avait un conflit au niveau des royalties. La Gécamine, certainement motivée par des informations précises, avait demandé des comptes à Tenke Fungurume. Je crois que ce qu'il faut envisager, il y aura certainement diminution dans les prétentions de l'État. Il y a certainement des projets qui ne vont pas être rencontrés parce qu'il n'y aura pas assez de moyens pour les rencontrer. Mais je suppose que même si nous descendons à 10 milliards ou même à 11, 12 milliards, nous sommes toujours dans la phase des performances budgétaires parce que, n'oubliez pas, nous venons de 4 milliards. Ça signifie que nous sommes dans la phase de performance et il est possible que l'État, dans ses prérogatives, hein, puisse sécuriser le noyau, moi j'appelle le noyau des contributeurs principaux qui sont les opérateurs miniers.
Merci Adrien Zawadi. Quelle lecture vous faites de cette question, la contre-performance des régies financières dans les secteurs miniers?
Oui, je voudrais, je félicite Willy pour cette approche beaucoup plus formelle et idéale des choses, hein. Mais je voudrais toucher un autre aspect peut-être qu'il n'a pas voulu engager. Pour moi, les régies financières sont des postes troués de l'État. On peut pas parler de cette contre-performance sans soulever la question de la corruption, du coulage des recettes et l'impunité au sein de ces régies. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est qui de tout.
Allô, Adrien Zawadi, apparemment il est parti, la réalisation va essayer de les rappeler. Madame Stéphanie Wachtoz, beaucoup d'observateurs estiment que pour que la RDC sorte de ses cycles, elle devrait cesser de se rendre, n'est-ce pas, dépendante des minerais, et elle doit plutôt diversifier son économie en mettant en place des politiques qui lui permettent de promouvoir la production locale. Mais on se rend compte que les pays ont du mal à relever ces défis. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer cela?
Oui. Je m'enchaîne un peu à ce que disait Adrien avant qu'il n'ait été coupé. Je crois qu'on ne peut pas parler d'un manque budgétaire sans parler honnêtement des niveaux de corruption au pays. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nuit gravement à la capacité de l'État de fournir des services à sa population. Donc aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce qui empêche l'État de faire mieux? C'est peut-être parce que l'État, en fait, les gens au gouvernement sont contents avec ce qu'ils peuvent retirer du secteur minier. Quand je regarde 80% du budget vient des mines, c'est très inquiétant parce qu'évidemment, ça ne donne pas suffisamment d'emplois ici en RDC. On a un grand problème de manque d'emplois et donc de pauvreté ici au pays qui ne peut qu'être réduite que si on a une croissance économique très importante. Et pour ça, il faut l'infrastructure. Il faut créer les conditions pour avoir une économie plus diversifiée avec l'agriculture et un secteur manufacturier. Donc ça, c'est les deux choses qui sont pour moi très importantes, la diversification et puis la bonne gestion de l'argent public, ce qui depuis 30-40 ans n'est malheureusement pas le cas.
Merci. Apparemment, on n'arrive toujours pas à retrouver Adrien Zawadi. Bon, voilà, donc. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Madame Stéphanie Wachtoz, à Monsieur Willy Kalengai et à Monsieur Adrien Zawadi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Charlie Louyeye qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Def Vita, à la réalisation Lech Walassa et à la présentation Guy Maté sous la supervision d'Alex Sommet, Martin Sebujango et d'Étienne Rougerie. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Stir Up de Bob Marley. Comme vous le savez, jeudi le 11 mai, c'était le 42e anniversaire, n'est-ce pas, de la mort de celui qu'on appelait le roi du reggae, Bob Marley. Et on se retrouve le samedi prochain.